Merci beaucoup pour votre accueil. Je suis très heureux de me retrouver avec vous. Ça faisait quelques années que je n'avais pas eu le plaisir d'être avec vous. Oui, en effet, donc je suis directeur du concours public depuis 2 années. Donc je ne corrige pas, hein. Il y a des personnes qui font ça. Mais moi, je suis responsable de tout ce qui est théologique, écrit, réponse aux enfants quand ils écrivent personnellement, etc. Et puis, bien sûr, je fais la publicité pour le concours, hein, c'est le cas de le dire, dans les églises qui m'invitent, puisque je suis aussi et toujours itinérant. Ça fait maintenant 13 années et 26 ans de ministère à plein temps. Voilà, donc pas mal de temps que je suis avec le Seigneur dans cette activité. Voilà, en tout cas, merci pour votre accueil et pour vos encouragements. J'aimerais que nous partagions un texte que nous connaissons, je pense, presque par cœur. Toujours embêtant de prendre des textes qu'on connaît très bien parce qu'on se dit, bon, je sais très bien ce qu'il va dire. Il va aller là. Mais il faut essayer un petit peu de se laisser surprendre. Et peut-être il y a des choses sur des textes qu'on a peut-être, qu'on pense connaître parfaitement. Il y a peut-être des détails qu'on n'a pas remarqués. Et ça a été le cas un peu pour moi pour ce texte. Je vous invite à suivre la lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, qui est cet épisode de Jésus et la résurrection de Lazare. Nous allons lire ce texte, il est important d'en faire la lecture. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Et lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider. » Et tu retournes en Judée ? Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marie apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Mais je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Oh, elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec lui, avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne meure point ?» Alors Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre !» Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. Il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « T'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le, laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. On imagine sans peine les moments difficiles, dramatiques qu'ont vécu les deux sœurs de Lazare, Marthe et Marie. On peut dire que leur foi a été éprouvée, et particulièrement parce que Jésus n'est pas venu, alors qu'elles l'ont fait appeler à son chevet. « Voici, disait-elle, celui que tu aimes est malade. » Et elles font envoyer quelqu'un pour lui envoyer le message. C'est sûr qu'à cette époque, s'il y avait eu les téléphones portables, ça aurait été plus rapide. Pourquoi Jésus n'est-il pas venu auprès de son ami pour le guérir ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question ? Et la réponse se trouve en fait dans un repère géographique important que Jean nous donne dans son évangile. Et encore une fois, le contexte est capital pour essayer de saisir et de répondre à cette question. L'événement de la mort de Lazare est précédé de la guérison de l'aveugle de naissance, Jean 9, suivi d'un enseignement de Jésus qui a suscité une persécution contre lui et ses disciples. La fin du chapitre 10, qui précède l'histoire de Lazare, nous dit ceci, « Les Juifs cherchèrent à se saisir de lui, mais il s'échappa de leurs mains. » Parce que c'est vrai que le miracle de l'aveugle de naissance a bousculé beaucoup de personnes. Jésus alors, dit le texte, s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. C'est pourquoi au moment où Jésus reçoit l'appel des deux sœurs, le SOS, à travers ce messager, il est avec ses disciples dans le lieu où baptisait Jean auparavant, dans une ville ou un village où baptisait Jean. Et quel est ce lieu ? Eh bien, au chapitre 1 du même évangile et au verset 8, là où l'histoire de Jean-Baptiste nous est racontée, nous savons où est ce lieu. Ces choses, verset 28 du chapitre 1, se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Béthanie 1, Béthanie 2. Vous saviez qu'il existait deux Béthanies ? Moi, j'ai été surpris. Et ce Béthanie 2 se trouvait à 40 km environ de Jérusalem, au-delà du Jourdain, vers le désert. Jésus est parti là-bas pour fuir la persécution de Jérusalem. Et la Béthanie 2, où se trouvaient Marthe, Marie et Lazare, se trouve à 3 km seulement de Jérusalem. D'après ce repère géographique, j'affirme que Lazare est mort quand le messager envoyé par les sœurs avertisse Jésus qu'il est malade. Pourquoi ? Parce que le jour où Jésus arrive à Béthanie, où résidait Lazare, on lui annonce que ce dernier est mort depuis 4 jours. Et vous savez que les Juifs ensevelissent le jour même. Ils n'attendent pas. 4 jours. Il a fallu une journée de marche pour que le messager parti de Béthanie 2 arrive à Béthanie 1. Et que lorsqu'il part, Lazare est vivant. Mais comme il n'a pas de téléphone portable pour qu'on lui annonce au long du chemin, il y a un problème, reviens, Lazare est mort, il continue et il arrive auprès de Jésus en disant, voilà le message, Lazare est mourant, il est agonisant, viens vite, Marthe et Marie te demandent. Et Jean, au chapitre 11, nous dit que Jésus attend 2 jours de plus quand il reçoit le message, ce qui fait 3. Et au bout de 2 jours, il repart, on va y venir. Mais pourquoi attend-il ce temps, 2 jours? Eh bien, probablement à cause des Juifs qu'il avait fait fuir. Jésus attendait peut-être que les choses se calment un peu avant de revenir dans la région. Il y avait ce problème de persécution pour lui et ses disciples. Et comme il lui fallait à Jésus et ses disciples une journée de marche pour aller à Béthanie 2, quand il arrive, voilà 4 jours que Lazare est dans le tombeau. Mais c'est trop tard. Mort enseveli. Jésus savait que Lazare venait de mourir au moment où le messager lui demande de venir le guérir. Il le dit d'ailleurs à ses disciples d'une autre manière. Quand il dit après ces choses, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Ça fait partie déjà des moments ou des 2 journées où il est encore avec ses disciples. Et les disciples lui disent, oui, d'accord, s'il dort, il n'y a pas de souci, on va aller le guérir. Non, 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 vous n'avez pas compris. Il est mort. Et il est déjà mort depuis quelque temps. Ces détails me semblent être importants parce qu'ils font taire ceux qui accusent un peu vite Jésus d'avoir attendu froidement que son ami meure pour pouvoir ensuite le ressusciter. Jésus était dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit parce qu'il était trop loin du lieu où se trouvait Lazare. Et en même temps, le Seigneur Jésus ne joue pas avec la vie de ses amis et avec la vie des hommes, tout simplement. Les 2 sœurs, d'ailleurs, ne vont pas incriminer Jésus lorsqu'elles vont le rencontrer, en suggérant que leur frère serait mort parce qu'il aurait tardé. Non, leur complainte, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort, semble plutôt incriminer un concours de circonstances. Si tu avais été ici, mais tu n'étais pas là. C'est quelques jours plus tôt, il était bien à Jérusalem pour la fête de la dédicace, chapitre 10, verset 22, avant de devoir fuir vers le désert à plus de 40 kilomètres. Et certainement qu'au moment où il était là, quand il parlait, aveugle de naissance, etc., Lazare était mourant, Lazare était malade, bien malade. Jésus le savait, mais il n'a rien fait. Mystère de Dieu. Alors, on pourrait se dire, mais quand même, Jésus, avec un grand J, est le Fils de Dieu. Il aurait quand même pu délivrer Lazare de sa maladie à distance. Il n'avait pas besoin d'être là. Ne l'a-t-il pas fait pour guérir le fils d'un officier qui lui a dit « Non, 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 ne te déplace pas, d'un mot, dis, et il sera guéri. » Il l'a fait. Mais il ne le fallait pas pour ce cas particulier. Parce que le Seigneur a toujours quelque chose à faire, à une pensée, à une leçon, à un plan déterminé, précis. Et c'est le cas ici. Peut-être, et vous allez le voir peut-être plus précisément, un travail par rapport à l'une des 2 sœurs, Marthe, qui a besoin de sentir encore, d'apprendre quelque chose de lui. Mais il y a aussi, bien sûr, cette parole que je n'oublie pas au début du chapitre 11, lorsque Jésus dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié à travers elle. » Et dans sa prière au Père, à la fin du texte, nous l'avons lu, il dit, je te prie, parce que je sais que tu m'exauces toujours, mais je te prie pour qu'ils sachent qui je suis. Si Jésus avait ressuscité, guéri Lazare depuis Béthanie 2, personne n'aurait peut-être vu et saisi que cette guérison était miraculeuse. Mais Jésus avait un plan, avait un but, et il le poursuit. Vous savez, quand Dieu semble tarder à répondre à nos appels, il convient d'être attentif. On peut vite se décourager quand on prie Dieu et qu'il ne répond pas. On peut peut-être même se mettre à douter du fait qu'il ait pu nous entendre. On peut même culpabiliser en disant « je ne suis pas assez spirituel » parce que Dieu ne répond pas, ce qui n'est pas forcément juste. Quand Dieu tarde, il veut certainement ouvrir nos yeux à quelque chose que nous n'avons peut-être pas encore compris ou saisi. Et il nous amène à réfléchir automatiquement. Rien de ce qui arrive de bien ou de mal à nos yeux n'est le fruit du hasard. Si nous croyons en Dieu, nous devons accepter cela. Alors, particulièrement par rapport à la maladie, nous sommes sensibles à cela, bien sûr. Il arrive que nos prières aient pour seul horizon la guérison. Et qu'il est légitime face à quelqu'un qui souffre, qui est malade, un frère, une sœur ou quelqu'un de notre famille, et que nous croyons que Dieu peut faire quelque chose, que nous supplions le Seigneur de guérir quand nous prions, c'est pour cela. Nous attendons à cela. Mais pour Dieu, ce n'est pas forcément la seule solution, la guérison. Et certains vont se faire peut-être une image de Dieu en fonction de ce qu'ils espèrent de lui. Et si Dieu ne fait pas ce qu'il souhaite, alors Dieu, il n'est pas comme ça. Ou Dieu, il est comme ça. Dieu répond toujours, parce qu'il l'a promis. Vous y croyez cela ? Dieu répond toujours. Ou la guérison, et j'en ai vécu, suite à des prières et des onctions d'huile, des guérisons extraordinaires de cancer. On reste tellement en babaf quand le Seigneur agit, qu'on se dit, mais on est vraiment impuissant. Mais j'ai vécu aussi des situations dramatiques où Dieu n'est pas intervenu. Mais il a donné la capacité à ces personnes, à travers la prière, voire l'onction d'huile, pour supporter, pour accepter telle ou telle situation difficile. Dieu répond. Combien de témoignages je pourrais partager de cela? Ce qui me permet d'affirmer qu'en réponse à la prière de la foi, Dieu guérit toujours, même quand il ne guérit pas. En même temps, j'aimerais préciser que, et le texte nous semble faire sortir cela par rapport au dialogue de Marthe et Marie que nous allons voir dans un instant, Dieu n'est pas à notre service. Marthe et Marie le croyaient. Ce n'est pas parce qu'elles étaient intimes avec lui, et c'est vrai que les évangiles nous montrent qu'il y avait entre sa famille, Marthe, Marie, Lazare, vraiment une connivence, et souvent Jésus se trouvait chez elles. On connaît l'épisode extraordinaire de Marthe et Marie, où l'une se met au pied de Jésus, hein, et l'écoute, Baba, hein, c'est Marie. Si je me souviens bien, et Marthe qui dit, mais enfin, tu vois bien, ma sœur, elle ne fait rien, moi je prépare la cuisine, elle pourrait quand même me donner un coup de main, hein, etc. Mais Marthe, tu t'agites. Marie a choisi la bonne part. Donc les relations entre eux étaient intimes, étaient profondes, importantes. Et peut-être ont-elles pensé que là, Jésus va faire quelque chose. D'ailleurs, remarquons bien le texto qu'elles font envoyer par le messager. Seigneur, celui que tu aimes est malade. C'est pas, Seigneur, Lazare est malade. Mon frère est malade. Notre frère est malade. Non, c'est celui que tu aimes. N'y a-t-il pas un petit peu de pression derrière ? Sous-entendu, écoute, Seigneur, si tu l'aimes, parce que nous savons que tu l'aimes, bah, tu peux pas faire autre chose que d'agir. Et tu vas venir. Combien de personnes, y compris au sein de nos communautés, ont cette idée de Dieu parce qu'ils ont donné leur vie à Christ, parce qu'ils viennent au culte tous les dimanches, parce qu'ils donnent leur argent, parce qu'ils s'investissent, pensent que Dieu leur doit quelque chose en retour. Mais Dieu ne nous doit rien. Nous lui devons tout. Et tout ce que nous faisons pour lui, nous le faisons d'abord pour lui et parce qu'il l'a fait dans notre vie, sans attendre quoi que ce soit en retour, même si nous savons que Dieu bénit. C'est évident. C'est un petit peu la triste théologie de l'évangile de prospérité qui martèle, agissez, donnez pour que vous puissiez recevoir. Or, la parole de Dieu nous dit tout l'inverse. Vous donnez, vous donnez. Vous recevrez, certes, mais vous ne donnez pas pour recevoir. Dieu va vous bénir. Mais faites et donnez votre corps, donnez votre vie, certes, et attendez à ce que Dieu va faire. Mais ne monnayez pas Dieu. Il y a un psaume que j'aime beaucoup, le psaume 73, 73, s'il y a des jeunes voix, qui montre bien cette problématique où Asaph, en regardant la prospérité des méchants, dit « j'étais sur le point de glisser, de tomber dans un péché quelque part, de convoitise, tentation ». Et il se dit, mais en fait, comment ça se fait que ceux qui sont autour de moi, qui ne craignent pas Dieu, ils s'enrichissent, ils vivent dans la joie, dans le bonheur. Et moi qui ai donné, qui me sacrifie, qui était chantre, hein, il était dans le temple, etc. Moi, je n'ai pas plus. Ouais, qu'est-ce que tu fais, Seigneur, pour moi ? Et il le dit de façon forte, hein, puissante. Hein. Peut-être on s'est posé aussi la question, hein, il faut être honnête devant le Seigneur. Moi, ça m'est arrivé. Et il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. C'est donc en vain que je me suis converti à Jésus-Christ. Hein. C'est pour rien que j'ai fait ça. Oh, j'ai besoin de quelque chose, je veux quelque chose, Seigneur. Je veux plus. Au moins plus que ceux qui ne te connaissent pas, qui ne te craignent pas, et qui finalement s'enrichissent. Souvent malhonnêtement. Dans le mensonge. Et Asaph, si vous êtes curieux, et je pense que vous le serez, vous verrez qu'à la suite du psaume, il se rend compte qu'il avait oublié quelque chose, il raisonnait avec son esprit, son intelligence, son moi, qui prenait le dessus, et il dit, j'ai oublié d'entrer dans la présence de Dieu. Mais quand je suis entré dans la présence de Dieu, quand je suis retourné vers cette intimité, alors les choses se sont éclairées. Et j'ai compris. Vous lirez le psaume 73 et vous verrez ce qu'il a compris. Alors, mes amis, Lazare meurt bel et bien. Le Seigneur anticipait sur ce qu'il allait vivre lui-même et montrait à travers la résurrection cette victoire sur la mort, qui est le dernier ennemi que nous allons affronter. N'oublions pas, car Paul parle d'ennemi en tant que par rapport à la mort. Mais il a été vaincu, cet ennemi, par la résurrection de Jésus. Mais au moment où Lazare meurt, les résurrections ne couraient pas les rues, si je peux m'exprimer ainsi. Certes, peut-être Jésus avait ressuscité la fille de Jaïrus, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié vraiment la chronologie, elle n'est pas facile à vérifier. Mais ce n'était pas forcément dans l'air du temps. Oh, on avait les résurrections d'Élie, les prophètes de l'Ancien Testament, oui, peut-être, mais bon, ça pourrait être loin là, dans l'esprit des personnes. Et en arrivant, 4 jours plus tard, Jésus dira, « Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Le Père va révéler au Fils que cette situation navrante au point de vue humain servira à glorifier le Père, à manifester sa puissance et à ouvrir par-delà la mort cette porte d'espérance qu'est la vie éternelle. Et là, nous avons un atout extraordinaire dans notre monde d'aujourd'hui, où nos contemporains sont dans une sorte de ténèbres, j'allais dire ténébreuses, j'insiste volontairement, sans espoir d'en sortir, nous regardons ailleurs. Et par la résurrection de Christ, notre espérance est là, notre paix dont notre frère a parlé tout à l'heure est bel et bien là, présente, malgré les difficultés, et il l'a dit. Examinons un peu en détail les réactions et les propos instructifs des deux sœurs. Une première remarque que je voudrais faire, c'est que Marthe et Marie ne sais pas si vous l'avez remarqué dans le texte, vont lui dire la même chose. À la première rencontre de l'une et de l'autre. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Pourrait presque se dire, elle récite une leçon ou quoi? Elles se sont passées le mot? Mais en fait, réfléchissons un petit peu. Ces deux sœurs ont passé des heures, des jours, peut-être des mois, je ne sais pas, au chevet du frère, là, toutes les deux, parce qu'ils habitaient ensemble. Et ils connaissaient la puissance de Jésus. Et Jésus tarde. Il était à Jérusalem, pas loin, puis il ne vient pas. Il a ouvert les yeux de l'aveugle. Ça a dû se savoir, peut-être. Mais Lazare, il est encore là, il agonise. Oh, tu te rends compte, Marthe, si Jésus avait été là, s'il était là au présent, mais il le guérirait tout de suite. Mais oui, tu as raison, Marie. Mais oui, tu as raison, si Jésus était là. Vous imaginez un petit peu, ça a dû gamberger. Enfin, moi, peut-être j'aurais été comme ça. Et à force de dire ça, de se dire ça, et d'attendre les pas de Jésus qui n'arrivait jamais, voilà que quand elle le rencontre, « Seigneur, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. » Qu'ils sont longs parfois ces silences de Dieu, n'est-ce pas? Incompréhension de ses plans. Pourquoi? Qu'ils peuvent rester sans réponse longtemps. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir qu'elles ont cru de tout leur cœur que la présence de Jésus aurait changé les choses. Est-ce que nous croyons que la présence de Jésus peut changer les choses dans notre vie? Attention, pour elle, changer les choses, c'était guérir Lazare. J'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas forcément ce que Dieu va faire quand nous avons des pensées. Elles avaient raison de le penser, certes, en puissance, oui. Mais la foi n'est pas pour autant une garantie tout risque et ne suffit pas à changer les circonstances. Certes, il y a la foi, d'une part, mais il y a en même temps celui qui la suscite, celui qui la fait vivre, celui qui reste maître de toute chose. Ma foi, aussi haute, aussi importante puisse-t-elle être, et encore, on ne peut pas la gérer et la juger, n'enferme pas Jésus dans nos pensées, dans nos envies. En tant que telle, la foi n'a aucune puissance sans le plan et la volonté de Dieu. Et là, j'ai envie de, si vous me permettez, de faire parler Jésus qui ne dit rien, là, c'est vrai. Mais dans l'esprit de l'Évangile, Jésus aurait pu, tout en admirant leur foi, leur dire « Et qu'en sais-tu ?» Oui, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Oui, mais qu'en sais-tu? Es-tu convaincu de cela? Jésus n'est pas indifférent, il n'est pas ignorant, il n'est pas impuissant face à cette dramatique situation. Mais il a effectivement d'autres plans, d'autres pensées qui sont hors de la portée des deux sœurs et des nôtres bien souvent. Nos raisonnements, nos envies, nos projets ne sont pas forcément les siens. Il est Dieu. Nous ne sommes que des créatures, ne l'oublions pas. Nous aimerions des délivrances à tout prix, c'est logique. Lui veut d'abord se révéler à nous. Il veut que nous entrions dans cette relation, dans cette sanctification qui peut passer par des interrogations et des pourquoi qui resteront sans réponse, par des souffrances qui resteront dans notre corps même parfois, mais qui vont être utilisées pour sa gloire si nous les acceptons. Et Jésus dira à ses disciples avant de repartir vers Béthanie 2, « Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » Oh non, pas qu'il s'est frotté les mains en laissant son ami agoniser. « Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » Quelque part, j'ai presque envie de dire, j'étais pas sous pression. Parce que peut-être que s'il avait été là, Marthe et Marie l'auraient presque dit, « Maintenant, interviens, Jésus, interviens, s'il te plaît, Jésus, interviens. » Qu'aurait-il fait? Je ne sais pas. Je me réjouis que je n'étais pas là. Dieu veut nous faire d'abord, à travers ce que nous vivons, grandir dans l'interdépendance avec lui. C'est le but. Les circonstances, bonnes ou moins bonnes à nos yeux, sont toutes soumises à la souveraineté de notre Seigneur. Vous savez, je pense à la prière du Notre Père. lorsque nous la prions, certes, nous ne le faisons pas d'une veine redite ici, dans nos milieux évangéliques, on a raison, mais de temps en temps, c'est bien de la dire. Elle a été enseignée pour cela. À un moment donné, nous disons à Dieu dans la prière, « Seigneur, que ta volonté soit faite. » Je ne sais pas si nous réalisons ce que signifie quand nous disons à Dieu que ta volonté soit faite. Ça veut dire que vous ouvrez votre chéquier et que vous faites une signature et que vous ne mettez aucune somme. Je te fais confiance. Ce que tu feras, ce que tu écriras, ce sera le mieux pour moi. C'est un chèque en blanc. Je suis d'accord en avance de tout ce que tu vas faire. De bien comme de mal à mes yeux. Je pense que c'est une parole qu'il faut faire attention. Parce que quand nous pensons et disons que ta volonté soit faite et que nous attendons, un peu comme Marthe et Marie, la guérison, ou que nous souhaitons trouver un boulot, ou que nous souhaitons gagner un petit peu plus d'argent, que sais-je encore, nous espérons et nous savons et nous nous disons, Dieu, c'est comme ça que tu vas agir. La bénédiction ne peut passer que par ça, à tes yeux, n'est-ce pas ? Et à mes yeux. Eh bien, non. Pas forcément, pas automatiquement. La semaine qui a passé, c'était le thème de Jonas. Jonas, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Je ne sais pas si j'avais fait une étude ici sur Jonas. Je ne me souviens plus, il y a quelques années peut-être. Jonas, c'était un peu son problème. Pourquoi il s'enfuit à Tarsis alors que Dieu lui dit d'aller à Ninive pour annoncer la destruction ? Parce qu'il dit au chapitre 4, ben je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, riche en bonté, et que le jour où je vais dire à ces gens, si vous ne vous repentez pas, vous allez mourir, eh bien ils vont le faire. Un peu comme si Jonas dit à Dieu, tu vois, j'ai mimé, même pas mimé, j'ai agi, mais tu n'as pas compris. Et pourtant, j'ai fait l'effort, hein. Je suis parti à Tarsis, hein. Je me suis opposé. Hein. Il a fallu que tu fasses venir un poisson. Pas eu le choix. Tu m'as fait vomir là, sur la plage, pour aller à Ninive. Regarde ce qui se passe maintenant, ils sont tous convertis. Ils jeûnent, ils prient. C'est ce que je voulais te dire. Et l'épisode du ricin qui fait pousser et qui se détruit, eh bien montre et est là pour donner à Jonas une leçon. Qui commande ? Je te donne un ricin pour te faire plaisir, pour apaiser ta colère, parce que tu commences un petit peu à me saouler, avec la mort mais préférable à la vie. Hein. Et puis la nuit, je te le retire. Je décide. Et c'est pour ça qu'il termine en disant, mais tu imagines la joie des Ninivites qui viennent de recevoir le salut, gratuitement, par ma grâce, comme ton ricin que tu avais reçu, gratuitement, par ma grâce. C'est moi qui commande, je suis souverain. Et c'est intéressant de voir que le livre se termine par là. On ne sait même pas ce qui va se passer après. On ne sait pas si Jonas boude encore plus. Hein, on ne sait pas s'il finit par arriver à Tarsis, j'en sais rien. On n'entend plus parler de lui. Mais Dieu dit, c'est terminé, j'ai le dernier mot et je garde le dernier mot. Je ne t'autorise plus à parler. J'ai décidé. Tu acceptes ce que j'ai dit. On est dans la même pensée ici. J'ai décidé et je me réjouis de ce que je n'étais pas présent avec Lazare. Alors lorsque Marthe revient de parler avec Jésus, et on comprend que Jésus se trouvait en dehors de la ville à cause des persécutions, il est arrivé quand même discrètement, le contexte était difficile, mais on lui a fait dire qu'il était là. Alors lorsque Marthe revient à la maison, et qu'elle dit à Marie, je viens de voir Jésus, il est là, il te demande, il veut te parler, voilà que Marie accourt elle aussi discrètement, elle est même suivie par des juifs qui croient qu'elle va au tombeau pour pleurer. La foi de Marthe et Marie rencontre un obstacle, toutes deux, qu'elles ne peuvent surmonter, qui s'appelle la mort, avec toutes les traditions autour. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est vrai que la mort a des connotations dans notre esprit, différentes peut-être les uns et les autres. Hein. Tout dépend de ce que nous avons vécu avec la mort. Mais nous avons des clichés, nous avons des schémas tout faits sur la mort, l'après-mort, etc. Mais je pense que pour elle, la mort a mis Lazare hors de portée de Jésus. Combien de fois nous surprenons-nous à nous dire « c'est trop tard ». Tant pis, c'est fini. C'est pas possible. Et on baisse les bras. Alors c'est vrai que face à la mort, il y a de quoi baisser les bras. C'est fini. Marie en était là, malgré sa foi. Elle disait bien, Seigneur, si tu avais été là, Seigneur, mais ne reconnaissait peut-être pas ou ne voyait plus, et on ne va pas lui jeter la pierre, hein, peut-être à cause de son chagrin, tout ce que la seigneurie de Jésus implique pour lui-même, pour Jésus. Qu'est-ce que la seigneurie de Jésus implique pour nous quand nous chantons, quand nous appelons Seigneur? Moi je dis, on prend moins de risques en appelant Jésus Sauveur que Seigneur. Parce que quand je l'appelle Seigneur, ça veut dire que je l'autorise et je lui dis, tu es roi, tu es maître, tu commandes. Et on revient dans l'esprit de la souveraineté de Dieu. J'accepte ta volonté, tu es le Seigneur. Je suis soumis à ta seigneurie. J'aime souvent cette image aux enfants pour expliquer un petit peu cette seigneurie de Jésus. Mais vous savez, nous sommes de grands enfants, n'est-ce pas? Dans une voiture. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, où se trouve Jésus dans votre voiture? Ce serait intéressant de faire un petit test, hein? Bon, il y a beaucoup de possibilités, mais moi j'en vois trois importantes et intéressantes. La première, c'est à la place de la roue de secours. Je conduis, je suis tout content, pas de soucis. Puis, psst, crevaison. Ah! À part d'avoir les petites galettes, etc., on est content d'avoir une roue de secours. Et on répare. Puis une fois qu'on a réparé, et qu'on a réparé la roue de secours, on la remet à sa place. Terminé, on repart. Et on espère ne pas crever de longtemps. Jésus, on l'appelle. Et puis une fois qu'on l'a appelé, on le range. Jusqu'à la prochaine fois. Ça me fait penser un peu à Aladdin et sa lampe magique. Hein. La deuxième place, c'est celle du passager. Alors là, on culpabilise un peu moins. Il est là. On l'a fait monter, bien installé, attaché à la ceinture, impeccable. Puis on l'écoute, il nous parle. Puis il nous dit, tu devrais aller à droite. À droite? Mais pourquoi j'irai à droite? Ouais, tu devrais aller à droite. Oh non, moi j'ai envie d'aller à gauche. Ben, écoute, va à gauche. On est encore maître un peu de la situation. Mais il est là, c'est rassurant. On l'entend, on n'oublie pas forcément. Et puis la meilleure place, bien évidemment, c'est celle du conducteur. Moi, je suis à côté, et il a le volant. Et là, on dialogue aussi, Seigneur, on devrait aller à droite. Non, je vais à la gauche, moi. Ah bon? Enfin, franchement, je pense que tu devrais aller à droite. Moi, je ne comprends pas pourquoi tu vas à la gauche, là. Non, non, moi je vais à gauche. Eh, vous n'avez pas le choix. Ce n'est pas une voiture auto-école, hein. Vous n'avez pas des pédales, hein. Vous ne pouvez pas freiner. Ça, c'est la seigneurie de Jésus. Il dirige. Et je lui fais confiance. Pas facile, hein. Attention, je ne suis pas un donneur de leçons, hein. Parce que souvent, Jésus est assis à côté de moi. Hein. Et j'ai envie de faire. Moi, je fais une parenthèse. Ma femme me gronde toujours parce que je fais un malin plaisir avec le GPS. Je mets les GPS en route, je ne sais pas où je vais. Je regarde un peu l'orientation, grosso modo, où on doit aller. Et puis, vous savez, des fois, le GPS, pour aller à droite, il nous fait faire ça, etc. Puis, quand le GPS me dit, tournez à droite. Puis, je dis, mais c'est pas possible, il faut qu'on aille à gauche, de toute façon. Pourquoi il me fait tourner à droite? Alors, je réfléchis, il faut réfléchir vite, là, hein, parce qu'on arrive dans 300 mètres, 200 mètres, etc. Et puis, ma femme me dit, bah, écoute, tu es à droite, va à droite, t'embête pas. Je fais, ah, mais non, c'est pas logique, il faut qu'on soit sur la gauche, là-bas. Tu sais bien qu'on va vers là-bas. Et moi, je vais à gauche. Alors, j'ai bien ça, faites demi-tour dès que possible. Et j'ai fini par me tourner en rond. Et pour finir, je reviens au même endroit, elle me dit, tu vois, fallait l'écouter.
Même GPS qu'Emmanuel.
Alors maintenant, je mets la carte sur les genoux de ma femme et je dis, dis-moi où on va. Bon, c'était pour la petite histoire. On se reconcentre. Merci. Marie ne dira rien de plus à Jésus, mais son attitude, en fait, va lui faire sortir les larmes. Jésus, la voyant pleura profondément. Il fut troublé. Littéralement, le mot grec est très fort. Très fort. Et Jésus va vraiment exprimer ici ses émotions. Mais je ne m'y arrête pas. Je reviens un moment sur Marthe avant de conclure. Marthe a été la première à aller au-devant de Jésus. Ce dialogue va devenir maintenant plus consistant avec elle. C'est Marthe qui va encore parler. Seigneur, première parole, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et elle ajoute ce que Marie n'ajoutera pas. mais je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, maintenant, il te l'accordera. » Est-ce que vous avez fait attention à cette parole? À quoi elle pense? C'est sur Lazare qu'elle focalise son attention. Mais je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, maintenant, Dieu te l'accordera. Est-ce qu'elle pense à la consolation dont elle a vraiment besoin? Seigneur, console-nous miraculeusement, rapidement, on ne va pas passer des années dans le deuil. Je ne crois pas. Je ne le sens pas, je ne le vois pas comme ça. Moi, je pense qu'elle pense à la résurrection. Fais quelque chose, tu peux encore faire quelque chose. Donc on voit, me semble-t-il, une foi qui vraiment augmente. Et là, elle sait qu'il peut le faire. Et il n'est pas irréalisable, il est réaliste plutôt de penser que Marthe a entendu parler de résurrection. Pourtant, lorsque Jésus lui propose ce à quoi elle peut penser, quand il lui dit « ton frère ressuscitera », c'est ce qu'il lui répond aussi sec. On pourrait se dire « ah, gloire à Dieu, vite, vite, allons au tombeau ». Non. Elle doit certainement se dire qu'il ne peut pas avoir pensé ce qu'elle vient d'entendre. Elle cherche vite une autre explication plus rationnelle. Elle dit « oh, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour ». On peut dire « mais il faut savoir ». Qu'est-ce que tu veux, Marthe? Et on peut lui accorder des circonstances atténuantes, car c'est vrai qu'à cette époque, le principe et le concept de la résurrection ne s'appliquait que à la résurrection générale de tout le peuple de Dieu. Un peu comme le brigand sur la croix qui va dire à Jésus « souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne ». Il va mourir, Jésus va mourir. À quoi il pense? Jésus va pas mourir? Si, il sait qu'il va mourir. C'est mystérieux comme parole. Alors Jésus ne va pas blâmer Marthe, mais il va venir au secours de sa foi. Une foi qui, je crois, veut croire, pense que c'est possible, mais n'ose pas. Et il lui répond, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Ce n'est pas simplement que je peux ressusciter et donner la vie, Marthe. Je suis, moi, la vie. Et en moi, tu as la vie. Et c'est pour cela qu'il dit, « Même si vous mourrez, vous avez la vie. Si vous êtes en moi. » Et il va lui tendre une perche en lui posant une question. Est-ce que tu crois cela? Et c'est une question à laquelle nous avons tous un jour besoin de répondre. Est-ce que tu crois cela? Jésus l'invite à casser ce doute peut-être un peu sur la résurrection pour la faire basculer vers la foi, cette foi qui se livre complètement, qui ouvre complètement son cœur. Et qui dit, même si je ne comprends pas tout, je crois. Et c'est ce qu'elle va dire. Oui, Seigneur, je crois, dit-elle, que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Voilà une confession extraordinaire de Marthe. Quelle différence avec les propos des passants qui, à la crucifixion, injurent Jésus en lui disant, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Marthe, elle dit, tu es le Fils de Dieu. Et je le crois. Malgré cette affirmation et confession de Marthe, lorsque Jésus va se trouver quelques minutes plus tard devant le tombeau et qu'il va crier ou s'écrier « ôtez la pierre !» Donc Marthe, tu vois, on met en application, hein, attention, on y va là, hein, tu es prête ?« ôtez la pierre !» Et voilà que Marthe à nouveau en met une couche. « Hé, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Ça fait 4 jours qu'il est là, ça va sentir ?» Terre à terre, Marthe, hein, t'as de le dire, hein. Mais réaliste. Elle est convaincue que Jésus sait ce qu'il fait, mais son cœur commence à se soulever quand elle imagine l'état du cadavre et l'odeur qui va en sortir. Elle dit, Seigneur, c'est pas possible, on ne peut pas aller jusque-là, attends, stop. L'imagination de Marthe. Et Jésus va rester patient avec elle, avec beaucoup d'amour et de compassion. Il va lui rapporter cette parole qui est frappante et extraordinaire. « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Ne t'ai-je pas dit? Et voilà que Jésus la renvoie sur ses propres paroles. Marthe, enlève ton imagination. Marthe, ne réfléchis pas, n'imagine pas. Reste sur ce que je t'ai dit. Mes amis, il y a une leçon importante là. Appuyons-nous sur ce que dit l'Écriture, la parole de Dieu. Et crucifions l'imaginaire, les « Dieu est peut-être comme ça, Dieu est sûrement comme ça, Dieu va faire comme ça, Dieu va pas faire comme ça. » Dieu fait ce qu'il dit. D'où l'importance de savoir ce qu'il dit. Ne t'ai-je pas dit ? Comme Pierre qui était sur le bateau et qui toute la nuit n'avait pas pêché de poisson, et que Jésus dit « Jette le filet de ce côté !» Et il est dit « Sur ta parole, je jetterai le filet. » Mes amis, la parole de Dieu est ferme, efficace, certes, et elle l'empêche d'avoir de fausses images de Dieu et de faire douter notre foi. Elle nous stabilise, elle nous met sur du roc. Alors, lorsque Lazare sort, le mort, bien sûr, sortit. Enfin, lorsque Jésus dit « sort », le mort sort. Le texte dit dans le grec que lorsque Jésus va vers le tombeau, c'est l'image d'un cheval qui s'ébroue vers la bataille. Vous savez, ces chevaux qui se mettent sur les pattes arrière, qui font du bruit, je ne sais pas comment on appelle ça, un hennissement particulier, là. Et puis, pof, ils foncent vers leur... vers ce qu'ils doivent faire, hein, les batailles, c'était comme ça. C'est le même sens ici. Jésus s'ébroue, Jésus se lève et va vers le tombeau, parce que face au tombeau, il y a la mort. Et la victoire va être donnée, mais il y a un combat spirituel. Et Jésus montre déjà, à travers Lazare, que la mort n'a plus de puissance et n'a plus de pouvoir sur la parole de Jésus. Et le texte va se terminer par cette confession à nouveau, où il est dit, plusieurs d'entre eux disaient, pardon, là, je suis dans un autre texte, hein, je vois là, quelques-uns d'entre eux crurent en lui, quand il a vu cette puissance de la résurrection. Alors puissiez-vous avoir vécu ce Jésus sauveur, mais aussi ce Jésus Seigneur, et je vous invite vraiment, moi ce texte m'a parlé récemment par rapport aux circonstances de la vie, n'ayons pas de fausses images, attendons et faisons confiance au Seigneur dans la paix. C'est bien, je rejoins l'introduction tout à l'heure, ce Philippiens 4. Hein. C'est dans la paix, la confiance que sera notre force et notre repos. Que le Seigneur nous bénisse ensemble et vous bénisse particulièrement. Amen. Nous allons prier encore. Seigneur Jésus, une fois de plus, nous sommes reconnaissants de pouvoir partager ensemble ta parole et tu veux, par ton esprit que tu nous as donné, la faire vivre, mais aussi nous reprendre s'il le faut, si tu nous as rappelé ou montré du doigt quelque chose dans notre vie qui peut-être ressemblait à l'attitude de Marthe ou Marie, ou si le doute était là, Seigneur, tu veux nous encourager. Peut-être certains ici ont réclamé de toi une intervention particulière et ton silence est pesant, difficile, voire même les amène dans le doute sur ce que tu peux faire. Eh bien, Seigneur, je te prie, au nom de Jésus, d'ôter cela et de leur donner cette vision nouvelle et renouvelée d'un Seigneur qui sait, mais qui agit en temps et en heure, parce qu'il a un plan et que ce plan sera le meilleur. Qu'ils puissent réaliser cela, Seigneur, maintenant. Tu vas répondre, Seigneur, je le sais, parce que tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour beaucoup. Une fois de plus, Seigneur, merci encore pour ton amour, merci pour ton pardon, merci pour la paix que tu nous donnes. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen.
Bonjour. J'aimerais remercier à chacun de ceux qui ont participé à ce culte ce matin. Merci au groupe de louanges. Merci à toi, Frédéric. Que Dieu continue de t'accompagner jour après jour dans la mission qui la tienne, dans le travail qui t'a confié. Frédéric va repartir tout de suite après le culte, donc il y a quand même quelques instants pour partager avec lui. N'hésitez pas, si vous voulez prendre un petit moment avec lui, vous renseigner, savoir exactement ce en quoi consiste son travail au niveau du concours biblique. En tout cas, que Dieu continue de t'accompagner et te bénir dans ce travail. Les annonces de la semaine sont assez light. La semaine passée était chargée. Je vais laisser Emmanuel nous faire encore quelques annonces ou nous partager certaines choses.
Ben moi, je voulais déjà remercier tous ceux qui ont participé à ce club, même vous les anciens, on ne vous a peut-être pas vu sur le... le terrain de sport ou dans la salle, mais on sait que vous étiez en pensée avec nous, en prière avec nous. Et juste pour vous dire, comme on sentait la présence du Seigneur et sa paix, comme on a dit, on avait une infirmière et en fait, on a eu deux cas un peu spéciaux. Un enfant qui s'est ramassé un ballon dans la figure et en fait, on a appris que cet enfant, il s'était fait enlever un os à la hanche quelques semaines avant pour remplacer sa mâchoire. Et, ben, il n'a rien eu, le Seigneur a gardé pour ça. Et on avait sur 70 enfants, un enfant qui devait surtout pas se faire piquer ni par une guêpe ni par une abeille, ben, il s'est fait piquer, mais tout s'est bien passé. Donc vraiment, le Seigneur était là pour répondre aussi aux bobos. Donc vraiment, merci à chacun. On a déjà eu beaucoup de parents qui nous ont témoigné de leurs remerciements, soit lors de la cérémonie, soit certains nous ont écrit des mots. Il y avait une maman malade qui pouvait pas emmener sa fille. Elle nous a fait un super gentil SMS en remerciant toute l'équipe d'avoir accueilli sa fille qui s'est inscrite en dernière minute et c'était vraiment, elle était très reconnaissante. Et ce qui était amusant, à la fin du club, il n'était encore pas fini que déjà des enfants demandaient et des parents, est-ce que vous avez déjà les dates pour l'année prochaine ? Et puis après, j'ai passé la porte et j'avais un grand qui est là, qui s'appelle Jean-Paul, qui m'a dit « Ah, moi, j'ai déjà des idées pour un bricolage l'année prochaine. Et puis le thème, j'ai déjà aussi une idée. » Et puis après, hier soir, on avait les aides mono chez nous et plusieurs « Ah oui, j'ai pensé un truc qu'on pourrait faire. » Donc en fait, on va presque être obligé de réouvrir tout de suite les inscriptions pour l'année prochaine. Donc en tout cas, ceux qui n'ont pas participé, renseignez-vous autour de vous. C'est vraiment une bénédiction. Et je veux aussi vous témoigner de quelque chose. Il y a des personnes qui sont venues nous aider d'autres églises et qui ont été ébahis, si on peut dire comme ça. Ils ont dit « Waouh, c'est vraiment génial de voir cette équipe qui travaille ensemble, ces dons tellement différents. » Donc voilà, je voulais aussi vous encourager. Je pense que c'était vraiment une semaine bénie. On a des objets trouvés au fond, vous pouvez regarder. Il y a un panier de pommes, c'était du surplus goûté. Vous pouvez vous servir, en prendre quelques-unes. Et puis on a une dernière image qui résume très bien le club de toute la semaine. Donc ça, c'est l'esprit d'équipe, voyez, la parole de Dieu qu'on a déversée en abondance sur les enfants. Et voilà. Et puis tous les aides mono et les mono avaient la question moniteur dans le quiz. Donc c'est la dernière question de la semaine. Qui est sous la masse d'eau? Oui, c'était à la fin du club.
Merci à chacun.
Celui qui verse, c'est le super coach.
C'est vrai, un grand merci à tous ceux qui ont participé et surtout un grand merci à notre Dieu et que toute la gloire lui revienne. Donc je disais, la nouvelle semaine qui commence va être calme. Jeudi 24, il y a une activité qui va se dérouler, qui est organisée par l'église de Saint-Genis, à laquelle on est cordialement invité. Donc il faut savoir, c'est donc les Light Clubbers. Là, il y a un petit papillon, il y a toute une série de petits papillons au fond, et il y a aussi deux grandes affiches. Donc il y a une trentaine d'ados qui se retrouvent pendant une dizaine de jours dans un camp dans le Jura, afin de travailler à un spectacle. Et ce spectacle sera donné à la fin de leur camp. Il sera donc donné le jeudi 24, une première fois à 17h, une deuxième fois à 20h, et ça se passe sur le parvis du centre Jean Monnet à Saint-Genis. Donc chacun est vraiment invité. Et les light Clubbers étaient déjà venus à Saint-Genis l'année passée, peut-être que quelques-uns se souviennent. Ils seront donc de retour, mais avec une nouvelle formule. Ce ne sera pas la même formule modifiée, ce sera carrément une nouvelle formule. Dimanche prochain, notre culte. Mardi, dans une semaine, mardi 29, l'étude biblique pour les aînés. Et puis juste une information pratique concernant nos projets. Sachez que la demande de permis de construire a été signée cette semaine, donc c'est en route. Si vous avez des informations plus précises à demander, n'hésitez pas à contacter l'un ou l'autre des membres de la commission. Et puis, en parallèle, mais c'est aussi un petit peu le même sujet, John a mis sur le tableau au fond un tableau qui indique l'évolution des dons pour cette année. Je vous laisse le découvrir, c'est intéressant. Il y a une ligne qui trace la moyenne et puis il y a la réalité des dons qui ont été faits et je trouve, moi, personnellement, que c'est très réjouissant. Merci à chacun, merci à notre Dieu. Je vous invite à vous lever, je vais lire encore un verset dans 2 Corinthiens. Nous tous qui s'envoilent sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Bon dimanche, bonne semaine, soyez bénis.